Petit Dick, supercherie. Ces personnages qui s'habillent en robe noire, en habit gris ou foncé, pour qui travaillent-ils? Ces gens aux sanctions multiples ou aux revolvers à la ceinture, tout programmés pour tuer, qui servent-ils? Ils prétendent défendre la loi et faire justice. Mais qu'en est-il vraiment? Nous ne parlerons pas de leur salaire. Cela en dirait long. En fait, mais. Après avoir usurpé le trône d'Angleterre et s'être approprié d'immenses richesses collectives, ils ont conquis de nouveaux territoires habités en Amérique du Nord. Puis, ils s'y sont installés bien confortablement dans les meilleures terres après les avoir arrachées aux mains de ceux qui les avaient cultivées et en avoir déporté et tué certains. Ils ont installé un soi-disant système de justice, qui leur ressemblait d'ailleurs, pour mater les matables. Les autres, on les pendait. Prétendant chercher et vouloir faire la lumière dans les situations d'injustice, te montrer la vérité, ils se sont vêtus de noir, empêchant ainsi la vraie lumière et la vérité de passer par eux. Et ainsi, un système de banditisme et de vol organisé put fleurir à l'ombre du soleil. C'était l'exemple idéal de tout le monde, en fait, du monde entier. Quelle ironie! Si on regarde cela de plus près, on constate que tout ce qui s'est fait après l'usurpation du trône d'Angleterre, après Élisabeth I, est illégal et illégitime, donc sans valeur. Les lois locales, les ententes et les lois dans leurs colonies, les traités ici et là avec les peuples ou les habitants des autres territoires, sont également sans légitimité et sans légalité. Ceux qui ont conquis des territoires après cet événement l'ont fait au nom de voleurs, d'usurpateurs et de bandits. Pourtant, ce sont leurs représentants et leurs serviteurs haut gradés, bas gradés à vrai dire, qui ont fait les lois, les règles et les ententes qui déterminent aujourd'hui ce qui régit et oriente nos sociétés membres du Commonwealth. Les prisons leur servent à mettre à l'écart ceux qui ne veulent pas leur obéir. En principe, donc, les autorités canadiennes et les gouvernements n'ont aucune légitimité ni aucune légalité d'exercice dans les territoires de l'actuel Canada. Ils n'ont aucun droit d'exiger quoi que ce soit à ou de qui que ce soit. Et tous ceux qui sont dans les prisons y sont gardés illégalement. Cependant, il ne faudrait pas tous les libérer automatiquement pour autant. Ce simulacre de justice a quand même un minimum d'utilité, étant donné les circonstances. 10L3. Les esclaves à la sauvegarde des bandits et de leur trône. Au Canada, l'Angleterre avait beau jeu pour se faire des esclaves productifs et dociles sans trop de frais. Les nègres blancs et rouges d'Amérique correspondaient à leurs attentes. Quand vinrent des menaces contre l'Angleterre, les royalistes et leur majesté obligèrent les Canadiens français à les défendre. Ils mirent au point la conscription et fusillèrent ceux qui ne voulaient pas obtempérer à leurs exigences ou les emprisonnèrent et confisquèrent leurs biens. Raison de plus pour les voler. Ainsi donc, les esclaves blancs vinrent à la sauvegarde de leurs geôliers, des bandits et de leur trône à deux reprises. Ils ont été obligés de défendre l'Angleterre aux environs des années 1914 à 1918 et 1939 à 1943 en Europe. 10L4. Voici la reine d'Angleterre. Au Canada, on a longtemps présenté Sa Majesté la reine de cette manière à la population. Et tous savaient pertinemment bien qu'il en était ainsi, nonobstant l'usurpation. Même si cela en offusquait plusieurs, aussi c'était elle qui décidait de tout ultimement. Petit A. Voyons donc un peu de pudeur. Voici la reine du Canada. Il a donc été décidé en haut lieu qu'au Canada, on l'appellerait la reine du Canada. C'était moins gênant et moins choquant. Ainsi, officiellement, le Canada a une reine et des descendants. Cependant, quand un prétendant ou une prétendante au trône d'Angleterre y accède, Il ou elle devient automatiquement le roi ou la reine du Canada, et cela jusqu'à la fin des temps. Comme cet étrange, pauvre Canada, il est incapable de se trouver une majesté majestable, comme un grand. Pauvre petit pays, le deuxième plus grand pays du monde, serviteur du chef de l'Église anglicane, quelle farce forcée. Petit B, un autre mensonge pour ne pas trop heurter la susceptibilité des Canadiens français et anglais. On s'ingénie à mentir encore et encore. Il faut bien fabriquer des apparences agréables. On ne peut pas toujours agir par les armes. Doit-on inonder ça de larmes? Mais il ne faut pas s'en plaindre. Après tout, on a une belle et bonne reine, et son successeur sera bon et gentil. Enfin, espérons-le. 10L5. On continue à voler les gens. En attendant rien, en fait, on paie pour entretenir un système monarchique, des visites royales ou des représentants de Sa Majesté. Théoriquement, ils ont un certain pouvoir de décision, mais pratiquement, ils s'en servent très peu. Le poids de leurs conseils est important, mais c'est tout. S'il s'agit de nos jours d'un ensemble d'apparats, on pourrait bien s'en passer. Petit A. Pour voler, il n'est pas nécessaire d'avoir des ailes. Des cornes suffisent. Bien entendu, les gens sont quand même obligés de payer en argent sonnant, et non symboliquement, sous peine d'aller en prison. Les prisons de Sa Majesté. Un oui veut dire un non. La reine d'Angleterre veut dire la reine du Canada. Il n'y a rien là. Le mensonge, la tromperie, le banditisme, le vol, la spoliation, l'usurpation, le contrôle par la force ou le subterfuge, ça fait partie du même contrat social, du même package, de la même boîte à surprise ou à Pandore. Petit B. Vous aurez compris que tout ceci n'est qu'un jeu de mots, M-A-U-X. Mieux vaut en rire et peut-être aussi en payer le prix. Y aura-t-il une limite à tout cela, à cette vaste tromperie? Les souteneurs de la monarchie croient dur comme fer qu'ils adulent le bon représentant du trône d'Angleterre. Ils sont les premiers à avoir été et à être trompés, contrairement aux États-Unis, qui, eux, ont fait le bon choix en penchant vers les influences du vrai roi d'Angleterre, du moins le seul à avoir droit à ce titre légitimement et légalement. Il s'agit de celui qui fut connu sous le nom de Francis Bacon et qu'on appelle le maître ascensionné Saint-Germain, comme vu précédemment. Mais qui veut aller au-delà des apparences orientées de l'histoire et de tenir pour véritable le phénomène de l'ascension, tel que décrit dans le livre utilisé dans toutes les cours de justice du Canada pour prêter serment, ainsi que les conséquences qui s'en suivent?